7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre. On essaye d'affronter les crises d'ados. Comment vivre avec eux pendant cette période de désordre? Faut-il trouver un nouveau langage? Et peut-être qu'on pourrait aussi changer de point de vue et regarder ce qu'ils ont à nous apprendre. Le débat est ouvert avec Jean-Luc Aubert, psychologue, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Vous publiez « Mon ado et moi, le comprendre pour mieux s'entendre » chez Odile Jacob. Et avec nous, une journaliste, Marie Bernard, rédactrice en chef de Parenthèse, un magazine des ados qui a déjà 10 ans. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans crise d'adolescence, Jean-Luc Aubert?
Mais ça n'est pas souhaitable du tout.
Il faut la faire. Hein.
Parce que c'est difficile à vivre pour les parents, mais ça n'est pas souhaitable du tout. Ça permet à la société d'évoluer. Sans cette crise-là, les enfants resteraient à la maison. Vous imaginez, on serait toujours dans les cavernes de Néandertal sans la crise d'adolescence. Ça permet effectivement à la société d'évoluer. Ça permet à l'enfant de sortir de la famille également. Autrement, il resterait toujours avec papa et maman, ce qui n'est pas souhaitable.
Mais il ne peut pas en sortir d'une manière tranquille, harmonieuse, sans clash.
Antérieurement, il n'y avait pas de crise d'adolescence. C'est-à-dire qu'antérieurement, l'enfant passait du statut d'enfant à celui de travailleur. C'est-à-dire qu'il travaillait à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à au début du 20e siècle. Donc, l'enfant, on passait de l'enfance à l'âge adulte. Il n'y avait pas d'adolescence. Donc, mais là, la société était très caricaturale. Non, aujourd'hui, effectivement, il y a tout un temps transitoire, un temps de latence qui permet justement ce passage-là. Donc, il est compliqué. Ça, c'est vrai pour tous les parents, et j'en sais quelque chose, qui s'en plaignent régulièrement,
oui,
mais elle est nécessaire. Et elle est très constructive pour la personne d'abord, mais pour la société ensuite, parce que ça lui permet d'évoluer.
Alors, cette adolescence, cette période-là, en fait, elle n'existait pas au siècle dernier, Marie Bernard. C'est un concept assez nouveau.
Effectivement, qui date du 19e. Cette phase intermédiaire entre l'enfance, effectivement, et l'âge adulte, c'est le 19e. Et puis, le mot adolescence date simplement du début, en fait, du 20e siècle. Donc, c'est vrai que c'est récent.
Donc, à l'époque de Cro-Magnon, il n'avait pas de
crise d'adolescence. Oui, Freud n'en parle pas du tout dans ses écrits. Hein. C'est quelque chose qui avait véritablement été inventé par les études qui se sont prolongées et qui ont fait que, justement, les enfants sont restés beaucoup plus longtemps à la maison sans travailler véritablement.
Mais est-ce que la gestion de cette crise d'adolescence, est-ce qu'elle dépend aussi du modèle qu'on a eu avant nous? Il y avait un auditeur qui nous disait, mais souvenons-nous nous-mêmes, on est tous passés par là, est-ce que c'est important d'essayer de se remettre dans la peau de cet adolescent?
Oui, c'est-à-dire que oui, on oublie quelquefois ce qu'on a été au cours de notre adolescence. Mais il faut savoir que les repères identitaires que l'adolescent recherche, c'est pas dans la famille, c'est justement, avant, papa et maman étaient des repères identitaires. C'était véritablement des modèles. Et là, à l'adolescence, ce qui le caractérise, c'est qu'il le recherche à l'extérieur. Alors, ça peut être un acteur de cinéma, un chanteur, mais ça peut être quelqu'un de plus proche. C'est le professeur de philosophie du cercle des poètes disparus. C'est quelqu'un, en général, souvent les professeurs de français ou de philosophie, ou les professeurs de sport aussi.
Il faut trouver d'autres modèles.
On trouve d'autres modèles identitaires. J'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien lui ressembler. Ce qui rassure, en quelque sorte, l'adolescent, il a une image de lui, entre guillemets, de ce qu'il souhaite être lorsqu'il sera adulte.
Alors, Bernard, oui.
Moi, ce que je trouve intéressant du point de vue du parent par rapport à cette période de l'adolescence, c'est que cette phase, elle agit un peu comme un révélateur par rapport à l'éducation, dans le sens où si pendant toute la période de l'enfance on n'a pas expliqué en fait le pourquoi des choses, et ben c'est là aussi que ça clash à l'adolescence.
C'est le retour de bâton.
Et ouais, non, mais c'est qu'à un moment, quand vous êtes ado, vous avez envie de comprendre pourquoi tout d'un coup on vous dit de faire ça en fait. Ouais. Et si vous n'avez pas été habitué à ce qu'on vous explique, ben vous rejetez en bloc parce qu'il n'y a pas de raisonnement derrière. Et au contraire, enfin, un enfant à qui on explique pourquoi il fait les choses à l'adolescence, après ça peut clasher quand même, mais au moins il a accès au raisonnement en fait. Il sait, il a les moyens de savoir que c'est bien pour lui.
Alors, vous parliez tout à l'heure, effectivement, beaucoup d'agressivité qui ressortait à cette période-là. Nous avons Rivo qui nous appelle de Madagascar. Bonjour, Rivo.
Bonjour, Sandrine.
Alors, merci de nous appeler sur RFI. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous est arrivé à vous?
Je vous en prie. Mmh. Bien sûr. En fait, mon histoire, c'est comme ça. Mes parents étaient divorcés quand j'avais 9 ans. Et puis, quand j'étais ado, je n'avais pas vraiment la possibilité de vivre la vie des ados comme les autres ados en ont. Et puis, parce que moi, j'étais déjà adulte à 9 ans, je prenais soin de mes petits frères parce que j'étais le plus grand. Et comme crise d'ado, je connais pas trop des crises d'ado, mais plus tard, quand je suis adulte, maintenant je suis adulte, et là parfois je voudrais je vais essayer de revivre un peu mon adolescence, mais enfin, ça passe plus, mais ça devient un peu ridicule. Mes petits frères, maintenant, il y en a qui sont ados, ils sont deux. Ils sont des vrais ados parce que eux aussi, ils ont les problèmes d'ados de nos jours et envers notre mère, ils se comportent vraiment comme les ados, les vrais ados, quoi. Mais envers moi, ils n'osent pas parce que c'était moi qui prenais soin d'eux et ils ont peur de moi, c'est comme ça.
Donc vous êtes effectivement le grand frère, donc ils ne vous manquent pas de respect, mais ils peuvent avoir des paroles ou de l'insolence ou du manque de respect vis-à-vis de votre mère.
D'accord, c'est ça. Oui.
Merci beaucoup, Rivo, pour votre témoignage, Jean-Luc Aubert. Alors voilà, lui, ouais, Rivo, il avoue qu'il n'a pas pu faire sa crise.
Oui, il est passé de l'enfance à l'âge adulte. Et il dit qu'effectivement, il aimerait maintenant revivre en quelque sorte des moments de son adolescence. C'est assez typique. Là, lorsqu'on n'a pas vécu un stade de son enfance ou de son adolescence, eh bien, c'est dommageable parce que souvent après, on a envie de revivre ou de vivre cela. Donc, on a manqué quelque chose et c'est toujours plus compliqué de le revivre après. Il vaut mieux le vivre au moment où ça doit être vécu.
Bon, on a connaît qu'ils font leur crise d'ado à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans.
Il y en a pour lesquels ça continue toute la vie.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'un ado, vraiment, justement, il se construit sur ce nom, sur ce côté rebelle?
Ah non, c'est ce qu'on dit en général, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe-là. Il s'affirme lui, et justement, c'est parce qu'il s'affirme lui, et que le parent n'est pas habitué à cette affirmation de lui-même, qu'il considère ça comme un nom. Et ça n'est pas du tout ça. Non, je crois que c'est important, et on l'a dit tout à l'heure, le parent qui a la chance d'avoir un dialogue avec son enfant, s'il l'a eu au cours de son enfance, et si ça se prolonge au cours de l'adolescence, ça ira bien. Je veux dire, c'est pas un conflit. Alors, ça peut apparaître comme ça. Quand on parle d'agressivité de l'adolescent, c'est parce qu'il est anxieux. Et une des façons de réagir à l'angoisse, soit l'agressivité contre autrui, contre soi-même, soit effectivement l'énervement. Enfin, il y a des tas de processus adaptatifs ou défensifs par rapport à cette anxiété. Mais c'est pas il n'est pas méchant, entre guillemets. Il a des réactions agressives.
C'est ce qui fait que souvent, on a l'impression qu'il nous prennent pour des imbéciles qui nous prennent de haut.
Oui, et c'est pour ça que c'est important pour le parent qu'il comprenne bien que ça n'est pas ça du tout. Alors, ça peut apparaître comme ça, comme un manque de respect. Non, c'est une façon un petit peu viscérale de réagir, un peu abrupte, un peu brutale. Et lorsqu'on a compris ça, ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, lui dire merci, c'est très gentil, c'est très sympa de me parler comme ça. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut lui dire, écoute, je ne te parle pas comme ça, tu n'as pas à me parler comme ça. Mais il est important aussi d'avoir ce recul pour savoir justement mieux gérer la situation. Si on a une réponse aussi angoissée et aussi agressive que la sienne, là, on peut effectivement rompre le dialogue.
Marie, oui, c'est important, je trouve, que la place du parent, c'est, c'est celle de la maturité aussi. Et c'est vrai que parfois, on peut voir, observer, en fait, des parents qui se rabaissent au niveau de leur ado dans les conversations, ne serait-ce que par le ton sur lequel ils parlent.
Donc ne pas adopter le même langage.
En fait. Ouais. Et en fait, je pense que la place du parent, c'est aussi de prendre un peu de hauteur et de relativiser, quoi.
Ce que vous écrivez dans votre livre, c'est que le parent doit transmettre une confiance dans l'avenir, parce qu'ils ont quand même beaucoup de pression avec la réussite scolaire, le bac, l'avenir qui semble noir, et le parent doit être là pour lui donner confiance, en fait, lui dire ce qu'il est en train de vivre, c'est normal.
Mais c'est compliqué parce que justement, lui est angoissé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Puis il y a deux choses aussi qui caractérisent l'adolescent et son parent, c'est que l'adolescent, lui, il vit dans l'ici et maintenant, et le parent, lui, il vit toujours dans l'après. Alors, le vivre dans l'ici et maintenant, ça a aussi des qualités. C'est-à-dire que l'adolescent, il y a une forme d'insouciance qui va lui permettre justement d'aborder l'avenir sans trop d'inquiétude, ce qui n'est pas le cas du parent pour lui-même. Alors, ça a aussi l'inconvénient de l'ici et maintenant, c'est, on le voit bien au niveau des études en particulier, il ne travaille pas trop parce que justement, il n'anticipe pas les résultats à venir. Donc là, c'est aussi une source de conflit. Ce rapport au temps qui est complètement différent chez l'ado et chez le parent est important et est une source de tension et d'énervement mutuel.
C'est-à-dire qu'il faut se mettre aussi moins de pression pour les adultes de ne pas anticiper. C'est pas parce qu'il est en train de glander entre parenthèses.
Voilà, il faut vraiment rassurer les parents d'ados qui nous écoutent. Vous allez voir qu'à 18, 19, 20 ou 21 ans, un changement radical. Et tous les parents, si les parents sont surpris par la rentrée dans l'adolescence, ils sont aussi surpris de la sortie. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a une toute autre personne qui est là. Alors, il y a des signes comme ça, proleptiques, c'est-à-dire annonciateurs d'un changement. L'adolescent, il commence à s'intéresser aux autres, à poser des questions sur la famille, ce qui se passe, les autres, etc. Il est plus auto-centré. C'est un signe de sortie de l'adolescence. Et lorsqu'ils sont sortis, en général, ils sont transfigurés.
Ouais. Alors on va écouter tout de suite Nous aussi, c'est ce que chante Big Flo et Oli sur RFI.
Le rap est dans un sale état, nous ça c'est fallait pas. Si t'es pas calme, gars, je veux te cramer, t'écraser grave, du bal et v'là l'écart. Au départ, sur mon âge, tu rages, mais c'est bizarre. Dès que je rappe la plupart, ferme leur clap et car. J'ai les mille et un flow dans ma caverne, tu Olibaba gros, chromie, je blague pas, pas pour les bâtards qui veulent les appâter. Dans la rue, on t'aborde, toutes les filles t'adorent, c'est fort, tes disques d'or, mais tu sais pas rapper. Rajoute Bouda, Oli, tu te retrouves au cinéma. Big Flo me dit calme-toi, frappe pas les faibles. Les MC sont naze, où le combat est inégal. Donc si on kick ça, chaque fois, il y aura des fêtes. On me raconte qu'en ville, ils ne parlent que de gun. Ça boit, ça fume, ça dit wesh ma gueule. Les gens réclament nos plumes, car il n'y a aucune valable depuis l'époque d'Ayam ou de Michael. Oui maman, mais gueule pas trop fort, va t'entendre sur le disque. Merde, ça enregistre, ouais. Tant pis, j'assume ma vie un peu pourrie de pauvre type gentil. On verra dans 10 ans si c'est faux bandir. On grandit quand la vie elle t'en tire. Sur les rides, c'est flippant, on finit le shit, le frigo vide et le caddie faut remplir. Vendre des petits.
Oli, calme-toi là.
Trop tard, je suis déjà reparti. Je te jure, la vie va trop vite, alors on s'en fiche de tes clips et de tes bitches qui dansent près de ta Ferrari. Pourquoi tu m'enlis? T'es comme tous les ados, tu rêves de bif et même d'avoir de beaux abdos. Je suis un peu fou, personne n'a idée. Le matin, je dois réveiller toutes mes personnalités. Entre les intellos et les profs, les parisiens bobos et les bofs. Je sais plus trop quoi faire d'une planète originaire. Je vis à des années-lumière. Et désolé, c'est le décalage horaire. Ma bouche est un flingue, j'appuie sur la détente. Mais les mondes d'un cran, ça fait le top 50. Et tous mes potes d'enfance qui font les pop d'antan. Mais dans la pop, hip-hop, j'entends que de la pop dansant. Bouger le rap dansant.
Mais ils sont doux. C'est marrant, ils vont vite, mais on comprend tout.
Merci madame, faudra s'y habituer. Même si en France, les rappeurs ne savent pas articuler. Putain, mais dis quelque chose. Trouve-toi un orthophoniste, un vrai travail ou une cause.
Oli, pourquoi tu parles mal des autres? Toi aussi, tu fais des fautes.
Oui, j'ai peur du noir, et quand je suis seul, des fois, je chante des chansons pourries en faisant la vaisselle. Partant derrière le mic, peut me tester, dis-moi. Car depuis des mois, j'attends toujours qu'un artiste essaye.
Et à propos de la maille,
je préfère la foule. Trop de types devenus fous, des paris, t'es millionnaire.
Et à propos de tes fans,
on vient du futur, donc ils sont tous visionnaires.
De notre planète, on arrive, mais le public n'est pas.
Tu chantes.
Depuis l'an 2000, les types ne savent plus rapper.
Oli.
Les fans nous réclament qu'être le moindre signe de vie. C'est Big Flo et Oli. On vient combler le vide.
Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place.
Je suis venu pour t'humilier, te ridiculiser, te mutiler, t'es pas immunisé, peut-être t'éliminer, je vais t'éliminer, les rimes illimitées, t'es pas habilité, vu ta débilité de gros naze.
Tu vois, comme c'est facile de rapper vite, donc tu peux supprimer quelques MC de ta playlist. Écoutez ces merdes toute la journée, c'est pénible. Dire que pour la plupart, ils font la tournée des zéniths.
Mais Flo, t'as acheté une place.
Je sais.
Faut t'arrêter, tu parles mal.
J'essaie.
Mais je clash dedans, je suis fan, c'est comme ça, comme d'hab. Dans ma vie, dans ma peau, je suis mal, car être humain, c'est humiliant. Sur la planète, j'avais déjà mille ans.
Mille ans.
Mille ans, donc comprends que je vous trouve tous silence.
Silence.
Quoi?
Je vous ferme ta gueule.
Frère.
Non, sérieux, tu parles seul.
Merde, normal qu'on me trouvait bizarre dans la cour de récré. Personne ne rappe vite que nos photos, tu peux chronométrer. Ils veulent des gros flingues, des beaux seins, des gros points. Des copains, des pots de vin, des potins. Mais j'en ai pas. Je te le dis franchement, tout ça me dépasse. Et les filles veulent des.
T'es la femme de ma life, t'es la flamme de ma vie.
Ça me désole de voir tes connes quitte l'école pour faire les folles. Rendre leur vie molle, ce pic s'envole. La fuite, la drogue, les flics, la coque. Écoute la dope, échange de potes, échange de clopes. Tout ça pour finir enceinte sur un parking. Biggie.
Mais en attendant, tu chopes pas.
Je sais.
Faut que t'arrêtes d'être comme ça.
Mais un rap qui a beaucoup plu à nos invités. Donc comment faire? Comment vivre avec ces ados? On ne voit pas forcément comment la crise arrive. Si ça, si elle va finir un jour, comment y faire face? En tout cas, nous sommes avec Jean-Luc Aubert, psychologue. Et Marie Bernard, journaliste. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette chanson, quoi, les révélatrices du monde?
Non, mais c'est un melting pot de tout ce que peuvent ressentir les adolescents. Enfin, non, véritablement. Non, puis il y a une diction excellente malgré tout. c'est ce que j'ai apprécié par-dessus tout. Bon, bah, c'est un autre problème.
On a aussi à apprendre des ados. On verra un peu plus tard. Là, je voulais aborder le problème du rapport au corps dans votre livre Mon ado et moi, le comprendre pour mieux s'entendre chez Odile Jacob. Vous avez tout un chapitre effectivement sur le syndrome de la piscine.
C'est quoi le syndrome de la piscine? Ben, les parents
on l'a
d'ados,
tous traversé aussi.
Les parents d'ados le connaissent, ce syndrome-là. C'est au moment de la piscine, il y a beaucoup de mots d'absence. J'ai mal au ventre, j'ai mal ici, j'ai mal là, pour éviter la piscine. Parce que l'adolescent, comme il est à la recherche de lui-même sur le plan psychique, mais sur le plan physique également, son corps change. Il est mal à l'aise par rapport à son corps la plupart du temps. Donc c'est pour ça qu'il n'aime pas trop le montrer aux autres lors des séances de piscine. Donc d'où les moyens d'éviter divers et variés qu'il utilise.
Mais il faut dire que le corps change à une vitesse grand V. Comme un garçon, très vite, il va faire 1m85, il va se trouver comme une grande asperge. Où ils vont prendre.
Et c'est une source d'angoisse supplémentaire, parce que d'une part, ça le fatigue aussi, donc c'est un facteur d'entrée de l'angoisse, mais ça aussi, ce corps qui change, c'est très angoissant, c'est très déstabilisant. C'est un facteur d'anxiété supplémentaire. Et c'est aussi ce corps qui change, c'est ce qui explique aussi un peu les bêtises de l'adolescence. l'adolescent, vous savez, enfin les choses un petit peu qu'il peut faire, les expériences qu'il peut faire. Je compare ça à l'enfant ou tout petit enfant dont on dit qu'il fait des bêtises quand il apprend à marcher, qu'il touche ceci, qu'il fait cela, il expérimente son corps, le tout petit enfant. Eh bien, l'adolescent qui est avec son corps qui change également expérimente de nouvelles choses. Tout se passe comme si lui aussi expérimentait de nouvelles choses à travers son corps. D'où effectivement les différentes expériences qu'il peut faire quelquefois excessives, bien évidemment.
Mais cette position du corps aussi, qui est souvent, entre parenthèses, avachie chez l'ado. On a du mal à comprendre. Non, mais c'est vrai qu'il y a du corps qui pousse, mais en même temps, il est souvent dans des positions...
Bah, c'est fatigant de grandir.
Bah, oui, enfin, c'est...
Non, mais c'est... Ah. Ça mobilise quand même une énergie.
Et Marie a raison de le souligner. Les parents l'oublient souvent, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très fatigant de grandir. Et donc,
Donc c'est pour ça qu'ils restent dormir jusqu'à midi, 13h, qu'ils sont avachis sur le canapé, pendant des heures.
Ils ont des rythmes physiologiques complètement différents. Et on parle souvent de démotivation scolaire au moment de l'adolescence. Parce que cette démotivation, ce qu'on appelle la motivation scolaire, l'envie d'apprendre, c'est lié à une pulsion également qui s'appelle la pulsion épistémophilique, c'est l'envie d'apprendre. Elle rentre en concurrence avec la pulsion sexuelle, justement. Et c'est la pulsion sexuelle qui prend le pas sur la pulsion épistémophilique, d'où la baisse de motivation scolaire que l'on remarque chez nombre d'adolescents.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand effectivement votre ado, il ne veut que voir ses copains, ses copines, que sortir, qu'il s'en fout de l'école?
Trouver des motivations. Je pense qu'ils sont à la fois, comme vous dites, ils ont tendance à s'avachir, en même temps ils sont capables de faire du sport à l'extrême. Enfin, je pense que déjà trouver des centres d'intérêt, faciliter l'accès justement au sport, à l'art, et j'allais même dire, alors c'est un autre sujet, mais tout à l'heure on disait c'est l'adolescence, vous disiez c'est quand on commence à se centrer sur les autres, faire des choses avec les autres, je pense que ça résout aussi beaucoup de problèmes, c'est un moteur qui pousse à l'action, faire des choses. On a la chance en France d'avoir un milieu associatif qui est ultra développé. Et je trouve que encourager des ados à faire du bénévolat, à se sentir utile pour les autres, pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour des enfants défavorisés. Enfin, tout ça, je trouve que c'est des moteurs qui font qu'à un moment, il est capable de se bouger alors qu'il a peut-être envie de s'avachir.
Et tout à l'heure, vous parliez du corps, le besoin de se rassurer quand on a son corps qui change comme ça. Parce que lundi, on va faire une émission sur les selfies. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'effectivement, cette image du selfie peut le rassurer sur ce qu'il est?
C'est exactement ce qui se passait antérieurement. On n'avait pas ça, on n'avait pas le portable, on n'avait pas les selfies. Mais on se regardait beaucoup dans le miroir. Et donc, ça a un peu remplacé ça. Et Facebook, tout ça, les images qui véhiculent sur ce mode de communication là remplacent là. C'est toujours cette recherche de soi-même, de se rassurer par rapport à ce corps qui bouge, qui évolue. Et d'ailleurs, c'est aussi un des points d'agacement quelquefois du parent, parce que par rapport au corps, l'adolescent ou l'adolescente peut être très attentif le matin à sa coiffure,
à cette partie du corps,
etc. Alors qu'il peut manquer d'hygiène totalement, mais il est très attaché à cet aspect-là.
À l'image qu'il renvoie.
Et si cet aspect-là n'est pas maîtrisé, cette coiffure qui ne va pas bien, cette casquette qui n'est pas du bon côté, eh bien, ça peut l'angoisser. D'où un conflit, parce que le parent ne comprend pas. Pour lui, c'est complètement anodin. Et par contre, l'adolescent qui est à la recherche de lui-même, cet aspect-là le rassure
énormément. Donc, il ne faut pas se moquer de ce comportement.
Par rapport à l'habillement, il faut le laisser vivre, ça ne pénalise personne, ce n'est pas exactement notre goût, mais ça n'est pas bien grave.
Ça passera. Alors, on va tout de suite prendre Abdallah, qui nous appelle du Burundi. Bonjour Abdallah.
Bonjour Sandrine et mes interminables salutations à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Merci beaucoup Abdallah pour nous avoir contactés. Alors vous avez été un ado ou vous l'êtes encore? Racontez-nous.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis un ado, j'ai 19 ans. À chaque fois quand je fais des bêtises, mes parents me frappent. Il n'existe pas un dialogue entre moi et mes parents. L'unique moyen pour m'éduquer, c'est le fouet. Voilà ce qu'ils me disent. Ils me disent aussi que lorsqu'ils étaient aussi ados, leurs parents les frappaient. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont devenus responsables. J'avoue que je vis dans une peur totale. J'aimerais bien poser la question à vos invités de savoir ce que mes parents font. Est bien pour moi?
Eh bien, écoutez, effectivement, le mode d'éducation qui est le vôtre n'est pas souhaitable. Mais malheureusement, vos parents, ils reproduisent un modèle qu'ils ont connu eux-mêmes. Ils n'en connaissent pas d'autres. Alors, pour juguler cet aspect-là, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est en parler avec eux. Je crois que la meilleure façon, c'est d'essayer d'en parler tranquillement et calmement avec eux. Pas au moment où ils vous frappent, évidemment, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Mais à d'autres moments, au moment du repas, à d'autres moments, vous leur en parlez, véritablement apporter quelque chose, y compris au niveau de la culture, le hip-hop, le breakdance, etc. C'est des danses formidables, ils apportent quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qui existait antérieurement. Bah, la musique, c'est pareil, ça fait avancer. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait avancer, de toute façon.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à, par exemple, la chambre de l'ado qui n'est pas rangée? Ça, c'est vraiment cet espace intime.
Je laisse Marie répondre.
Comme... Ah bon, Bernard. Oui. On a fait des tonnes d'articles sur le sujet. Ah oui. Et ouais, parce que ça fait partie des... C'est un peu la partie immergée de l'iceberg, quoi. Ça fait partie de... Bah, je pense que ça...
C'est un espace intime. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet espace intime?
C'est véritablement le symptôme. C'est l'espace transitionnel. C'est-à-dire, la chambre de l'adolescent, il est à la fois chez lui et en dehors de chez lui. Il apporte des choses de l'extérieur. C'est un lieu de transition. C'est un sas. C'est vraiment symbolique, symptomatique de l'adolescence. C'est un lieu de transition. Parce qu'il est à la fois dedans et dehors. Donc, la meilleure des choses à faire, il range pas sa chambre. C'est pas grave. On ferme la porte.
Moi, je pense que l'intrusion des parents dans la chambre peut être beaucoup plus peut faire plus de dégâts, on va qu'un manque d'éducation par rapport à l'ordre. Enfin,
vous parliez d'intrusion, justement, jusqu'où il faut aller dans l'échange, parce que effectivement à un moment ils ont peut-être tendance à se refermer, à plus nous raconter des choses, et comment il faut réagir par rapport à ça.
Mais si on a un dialogue au quotidien, ça se passera bien. J'allais dire, on peut négocier par rapport à la chambre en elle-même. On peut dire, par exemple, on peut négocier le fait d'y mettre les pieds une fois par mois, en disant à quel moment on va y aller, de façon à ce qu'il range éventuellement tel ou tel aspect qu'il n'a pas envie qu'on voit. Mais il faut respecter ce lieu-là qui est un lieu propre par rapport à lui. Je crois que j'entends souvent ça. Et pareil, il range pas sa chambre, il range pas son linge, tout ça est en boule. c'est compliqué, ça génère des conflits. Et à mon avis, quand on est parent d'adolescent, il est important aussi de savoir distinguer ce qui vaut le coup d'être discuté ou pas. Il y a des choses qui ne méritent pas qu'on s'embête avec ça. Je veux dire, c'est vrai que la chambre pas rangée, c'est dérangeant, c'est embêtant, mais c'est sa chambre avant tout. Si on ferme, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas très très grave.
Et comment, peut-être pour terminer, comment s'intéresser à vraiment au monde des ados pour essayer de rétablir une discussion? C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Il faut s'intéresser à ce qu'il fait, ce qui fait son monde, même si a priori on comprend pas grand-chose ou que ça nous intéresse pas vraiment.
C'est ce que j'appelle le principe de Lagardère, c'est-à-dire que quand une communication est rompue avec l'adolescent, il faut que le parent s'intéresse un petit peu à ce qu'il fait. Ça veut pas dire qu'il partage les mêmes goûts musicaux, les mêmes films, etc., mais s'intéresser un petit peu à ses amis, pas toujours lui demander des résultats scolaires, mais ce qu'a fait un tel ou un tel à l'école, s'intéresser aussi à regarder par-dessus son épaule les jeux vidéo auxquels il s'intéresse, aller vers lui, rétablir la communication de cette façon-là, aller vers lui comme Lagardère.
Merci beaucoup Jean-Luc Aubert pour vos bons conseils. Je vous publie donc Mon ado et moi, le comprendre pour mieux s'entendre chez Odile Jacob, et Marie Bernard, rédactrice en chef de Parenthèse, un magazine, le magazine des parents depuis 10 ans. Merci aux voisins, aux voisines pour vos messages, merci à toute l'équipe qui prépare cette émission toute la semaine, donc Éléonore Krenik, Camille Neurand et Romain Dubrac. Je vous souhaite un très bon week-end et lundi, on se retrouve, je vous l'avais dit, autour des selfies, une nouvelle manière de se raconter. Alors envoyez-nous vos selfies sur le thème RFI et moi sur l'adresse mail 7milliards@rfi.fr avec votre numéro de téléphone. Lâchez-vous donc sur des selfies originaux et les meilleurs gagneront des cadeaux RFI et seront publiés sur la page des voisins, des voisines. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.